Ça m'a fait tellement du bien. Quand je suis entrée dans la salle ce matin, j'ai vu que les décorations avaient changé. Elles étaient déjà belles avant, mais on les a vues longtemps et là, elles sont toutes nouvelles. Et c'est toujours beau, c'est toujours nouveau, c'est magnifique, merci. J'ai même une petite courge sur la chair. On voit qu'il y a beaucoup d'amour qui a été déployé pour faire ces décorations. Et l'amour, c'est justement la thématique du message de ce matin. Nous vivons dans une société qui met en avant le sentiment, les émotions. Et c'est assez dramatique parce qu'en matière d'amour, les gens pensent que l'amour, c'est une question de sentiment et d'émotion, mais ce n'est pas le cas. C'est dramatique quand on pense que c'est un sentiment, parce que quand on n'a plus le sentiment d'amour pour une personne, eh bien, c'est vite fait de la quitter. C'est la raison pour laquelle, dans la société, de plus en plus de personnes ne veulent pas se marier, au cas où le sentiment d'amour disparaît. Ou alors, pourquoi est-ce qu'on voit autant de couples qui se déchirent? Parce que tout à coup, le sentiment d'amour disparaît. Alors à quoi bon? À quoi bon continuer? Mais c'est mal comprendre ce qu'est aimer. L'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. Pour commencer, l'amour, c'est un commandement et une décision. Et on va voir de façon plus spécifique, selon Dieu, qu'est-ce que c'est que aimer. Alors nous allons continuer, pour ceux qui suivent les cultes ici régulièrement, les visiteurs, soyez les bienvenus, et puis essayez de raccrocher les wagons. Mais voilà, nous sommes dans la première épître de Jean, nous allons continuer dans cette épître. Et Jean, c'est quelqu'un qui aime les contrastes. On a vu des contrastes entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort. Et depuis la semaine passée, entre aimer et détester, aimer et haïr. Et on continue aujourd'hui dans ce contraste-là pour essayer de mieux comprendre ou plus en détail qu'est-ce que c'est que aimer. Je vous invite à aller dans 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 11. 1 Jean 3, à partir du verset 11. Alors c'est vrai que je ne suis pas du tout dans la thématique de la joie d'une consécration pastorale que nous allons vivre cet après-midi. Je suis plutôt dans la thématique de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour l'Église. Alors c'est vrai qu'on a commencé dans la joie et c'est tellement solennel cette thématique que nous allons prendre ce matin que ça va peut-être faire un peu retomber la vapeur. Mais en même temps, ce sont des fondements tellement essentiels qui vont justement nous aider à aller plus loin et à nous aimer en Église, à nous servir et à servir bien au-delà de l'Église. Alors voilà, comprenez bien l'esprit qu'il y a dans cette prédication. 1 Jean 3, verset 11 et suivant. « Car ce qui vous a été annoncé, que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère, sa sœur, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Genèse 3, Adam et Ève tombent. Ils mangent du fruit défendu et voilà, c'est la chute. Le péché entre dans l'humanité. Genèse 3. Genèse 4, Premier meurtre, fratricide, Caïn tue son frère Abel. Ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi Jean utilise ce triste fait divers pour parler de l'amour et de la haine? Je crois que dans cette histoire, il y a un principe universel que nous devons comprendre aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé à l'époque, ça se passe toujours aujourd'hui. Regardez le verset 13. « Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si le monde vous hait. » Ne vous étonnez pas si le monde vous déteste. Est-ce que ça veut dire que si nous devons aimer, nous devons aussi nous attendre à être détestés? On dirait que c'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi? C'est quoi le principe? Qu'est-ce qui fait ça? Au verset 12, il nous a dit pourquoi Caïn a tué son frère. Caïn était du malin. Il tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Imaginez un petit peu la scène. Caïn, il décide d'offrir un sacrifice à l'Éternel, les prémices de ses récoltes. Alors il construit un autel en pierre, il met les prémices de ses récoltes, il met le feu, et le feu il prend un petit peu. Ça péclote, ça fumote, ça part un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sacrifice il n'est pas agréé? Est-ce que Dieu est insensible? Pourquoi? Il ne sait pas, mais jusque-là ça va. Il a fait ses prières un quart d'heure par jour, il a feuilleté sa Bible, il est venu de temps en temps à l'église. Voilà, ça va. Mais à un moment donné, il tourne son regard et il voit son frère Abel. Stupeur. Abel a aussi construit un autel de pierre. Il a mis les prémices, il a mis les prémices de ses troupeaux, il a sacrifié un de ses agneaux. Il a mis le feu et le feu a pris. Et la fumée monte et il y a une bonne odeur comme un parfum d'adoration qui monte vers le ciel. Et Caïn voit que le sacrifice de son frère est agréé et pas le sien. Qu'est-ce qui se passe? Comparaison, envie, jalousie, haine, meurtre. Voilà ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn. Abel a-t-il fait quelque chose de mal? Non. Non. Mais c'est son attitude, de cœur qui a confronté l'attitude du cœur de Caïn. C'est ça le problème. Donc c'est pas seulement que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Si on reprend le verset 12, pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et... On ne peut pas enlever ce « et ». Et que celle de son frère était juste. C'est à cause de ces deux choses en confrontation. Dans un monde de ténèbres, l'intégrité et la justice dérangent. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Je crois que ce principe, il est actif dans la persécution des chrétiens. Parce que les chrétiens, les disciples authentiques de Jésus, portent la vérité en eux. Ils marchent dans la lumière. Et cette lumière, elle révèle les ténèbres du monde. Mais le monde qui a rejeté Dieu ne veut pas de cette lumière. Alors il commence à oppresser le peuple de Dieu. C'est le même principe. Lorsque le monde est confronté à la vérité, ça fait comme une réaction chimique et ça peut devenir explosif. La question, et c'est là que ça commence à déranger, on a vu un peu la théorie, mais dans l'église, est-ce que c'est très différent? Oh, celle-là, je la sens pas. Ça vous est déjà arrivé d'avoir ces pensées, voire ces paroles dans l'église ou dans votre environnement?
Évidemment.
La vérité sort d'une bouche. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça vient révéler quand on a ces sentiments-là? Et qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez, quand il y a une personne qu'on ne supporte pas, il y a des personnes, elles nous insupportent. Eh bien, des fois, c'est parce qu'en fait, il y a l'effet miroir. Cette personne, elle a le même problème que nous, mais on ne se rend pas compte. Seulement quand c'est confronté, ça vient un peu réveiller un autre problème à nous, et puis on n'aime pas ça, c'est super désagréable. Donc c'est beaucoup plus simple de dire « celle-là, je ne la sens pas » que dire « waouh, il semblerait que j'ai un problème ». Et puis, dans le texte que nous venons de voir, c'est le principe contraire qui s'exerce. Parfois, on ne supporte pas quelqu'un parce qu'elle est dans la lumière et que dans notre vie, nous avons une zone d'ombre. Et que sa lumière, sa vérité, le fait qu'elle marche dans la vérité, ça vient un peu mettre en lumière notre zone d'ombre. Et on n'aime pas ça. Alors, on préfère prendre de la distance. Réfléchissez, prenez le temps dans les jours qui viennent de vous dire « Mais est-ce qu'il y a des gens que je ne supporte pas et pourquoi ? » Est-ce que c'est parce qu'elle est réellement en tort ? Ou alors est-ce que ça réveille quelque chose de mon propre cœur ? Vous savez, le sacrifice d'Abel, ce qu'il a révélé en vérité, c'est l'état spirituel de Caïn. Et quand on a ces sentiments d'irritation contre un frère ou une sœur qui naissent en nous, ça commence à venir révéler notre état spirituel. J'en suis où ? Et pourtant, on doit aimer. Ce qui vous a été dit, ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas être comme Caïn. Ça veut dire que même quand quelqu'un porte atteinte à notre intégrité, lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous devons pouvoir l'aimer. Parce que si c'est réellement cette personne qui est en tort, ça ne nous donne pas l'autorisation de rendre là pareil ou de commencer à aller nous-mêmes dire du mal de cette personne. T'as vu ce qu'il m'a fait ? Non, mais t'as vu ce qu'il m'a dit ? Aïe, 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 est-ce que Jésus a fait comme ça ? Jésus nous a dit dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et nous avons vu que cette nouveauté, ce commandement, il est là depuis les commandements donnés à Moïse, dans Lévitique, dans Deutéronome. Mais pourquoi il est nouveau ? Parce que c'est Jésus qui lui a donné sa nouveauté. Jésus a accompli ce commandement-là. Il a aimé à l'extrême. Et nous devons aimer comme Jésus a aimé. Est-ce qu'il n'y a pas un exemple ? Est-ce qu'il n'est pas notre exemple par excellence ? Mais comment ? Comment est-ce qu'il a aimé ? La réponse, on l'a au verset 16. Nous avons connu l'amour, Jésus-Christ, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Jésus a donné sa vie. Et nous devons aussi donner notre vie. Est-ce que ça veut dire que nous devons passer en sacrifice à la croix ? Évidemment, non. Ce n'est pas ça. Il l'a fait une fois pour toutes. Mais qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie ? Comment est-ce que Jésus a donné sa vie ? Il l'a donnée de deux manières spécifiques. Et on le voit par exemple en Marc 10, 45. Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donner sa vie, c'est servir. Et le fait de donner sa vie en rançon, il y a une question de sacrifice. Jésus s'est fait serviteur, et il s'est sacrifié. Et ça veut dire que nous devons nous faire serviteurs et nous sacrifier. Comment ? Comment ? Il faut faire attention de ne pas confondre. Si on prend déjà le service, Jésus n'est pas un serveur avec son plateau. qui prend une commande et puis qui sert la commande. Il est un serviteur. Pour illustrer la différence, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ce genre de prière ? Seigneur, fais que ! Seigneur, fais que mes parents m'autorisent demain à sortir avec mes potes. Seigneur, fais que je passe mon permis. Seigneur, fais que mes collègues soient plus sympas avec moi. Seigneur, fais que. Quand j'étais gamine, je me souviens, j'ai écrit, j'ai griffonné un papier que j'ai fixé contre la fenêtre de ma chambre avec un caillou, du scotch, je sais pas tout quoi. Pourtant, je savais que Dieu était dans mon cœur, mais il fallait qu'il le voie de l'extérieur. Parce que j'avais écrit dessus, Seigneur, fais qu'il fasse beau jeudi parce qu'on part en course d'école. C'était tellement important de partir en course d'école. Ça aurait été dramatique de devoir rester dans une salle de classe. Seigneur, fais que. Serre-moi sur un plateau selon mes intérêts, mes désirs. À court terme, de maintenant, ce qui me fera du bien, ce qui me fera plaisir. Fais que. Ça, c'est prendre le Seigneur pour un serveur. Mais il s'est fait serviteur. C'est pas la même chose. On demande des fois à Dieu un coup de baguette magique. Mais c'est pas ce qu'il est venu faire. Jésus est venu servir. Dans le livre d'Ésaïe, il est question des chants, on appelle ça les chants du serviteur. Il y a plusieurs chants du serviteur et on peut lire par exemple le début du chapitre 42. Vous connaissez surtout Ésaïe 53, qu'il s'est fait, il a pris je vais y arriver. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a des choses que nous connaissons bien, ce Ésaïe 53, on en parle toujours par rapport au sacrifice de Jésus à la croix. C'est des paroles que nous connaissons. Mais il est question de Jésus serviteur de cette manière-là. Voici mon serviteur, je suis au début du chapitre 42 d'Ésaïe. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Voilà ce que fait le serviteur. Il annonce la justice et nous avons vu que la justice, elle se manifeste, elle s'accomplit en Jésus-Christ, lui qui est sans péché et qui paye à notre place. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Le serviteur, il n'est pas orgueilleux, il ne se met pas en avant, il proclame pas des choses pour être entendu, pour être vu, mais il agit dans le secret, avec efficacité. Il agit dans l'humilité. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. S'il voit un frère ou une sœur qui est dans la panade, il ne va pas l'écraser encore plus. Quand il voit un frère ou une sœur qui est dans le péché, il va essayer de trouver ce qui va bien dans ce frère ou dans cette sœur et dire « Allez, on va construire sur ce qui va bien. On va construire sur ce qui reste de ton espérance. » Et le serviteur, il va essayer de relever ce frère qui est tombé ou cette sœur qui est tombée. Il va essayer de relever, d'accompagner une personne qui est dans la difficulté ou dans la détresse. C'est ça, être le serviteur. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Voilà une toute petite partie du serviteur. Le serviteur, il s'abaisse pour rejoindre les gens là où ils en sont, pour essayer de les élever, de les sortir de leur misère. Jésus est le serviteur par excellence. En Jean 13, au tout début de ce chapitre. C'est l'histoire de Jésus qui se dévêt, qui prend un linge, une serviette, et qui s'agenouille devant ses disciples et qui leur lave les pieds. Il est en train de leur décrasser les pieds. Et il ne le fait pas à n'importe quel moment. Il le fait quand il sait que son heure est arrivée. Il sait que dans la nuit, dans les heures qui viennent, il va se faire arrêter, se faire abandonner, trahir, renier, par ses 12. Il le sait et il se met à décrasser leurs pieds. C'est ça le serviteur. Même quand il sait qu'on lui fait du tort, il vient faire en sorte que ses disciples soient lavés, soient purifiés pour se relever et pouvoir le servir. Nous sommes appelés à être des serviteurs les uns des autres pour nous élever, nous relever, nous accompagner, nous porter, nous supporter. Ça, c'est être serviteur. Mais c'est pas tout. Il ne faut pas seulement être serviteur. Il faut aussi se sacrifier. Comment est-ce qu'on se sacrifie? Verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure en lui ?» Si tu identifies le besoin de ton frère ou de ta sœur et que tu as les moyens de répondre à ses besoins, mais ça t'ennuie parce que ça te coûte quelque chose et que tu ne le fais pas, où est-ce que tu en es de ton amour? Dans quelle mesure est-ce que tu arrives à te donner? Les biens du monde, ça peut être des biens matériels. Si tu as les moyens de donner, là, il n'est pas question de donner ce qu'on n'a pas. Quand on n'a pas quelque chose, on ne l'a pas. Mais quand tu as des biens matériels, de l'argent et que tu vois quelqu'un a des besoins, mais tu as peur de manquer et tu ne veux pas donner, il y a quelque chose dans ton cœur qui montre que ton amour pour Dieu, ton amour pour les frères et sœurs est encore pas tout à fait... Et encore pas tout à fait à 100%. Tu as des craintes. Mais tu peux avoir d'autres biens du monde. Tu peux avoir du temps. Tu peux avoir une capacité d'écoute. Tu peux avoir des compétences. Si tu as tout ça et puis que tu refuses de les mettre à disposition, où en es-tu? Il y a 2 semaines, je crois, j'étais assise là, à mon habitude, et puis il y a une nouvelle famille qui est arrivée avec 2 petites filles de 18 mois et 3 ans. Ils se sont assis là où il y a Jean Toussaint avec son fils. Et puis à la fin de la louange, je me suis tournée, j'ai dit à cette famille, mais il y a une salle de garderie au fond de la salle, si vos filles veulent y aller, comme ça elles vont pas s'ennuyer, et puis vous pourrez suivre le culte. Et puis les 2 sont partis, ils ont amené leur petite fille, ils sont revenus, et moi pendant tout le culte, je me suis dit, aïe aïe aïe, j'espère qu'il y a quelqu'un à la garderie. Oh, je me suis culpabilisée pendant tout le culte, je me suis dit, Joannie, elle a déjà l'OAM, s'il y a Bertrand, il sera avec Chrysilda et avec Kylian, et puis je sais pas, il y en a peut-être d'autres, il y a peut-être encore Naël qui est par là, et puis d'autres, et puis moi j'envoie 2 petites filles sans baliser, et puis je serre les fesses, et puis je rentre le ventre, puis je me dis, Seigneur. Et le culte se passe, et à la fin du culte, les parents sont les premiers étonnés parce que ces petites filles sont restés dans la salle tout le long. Une fois, il y en a une qui est venue juste pour boire, elle est repartie. Ils ont dit, mais elles n'ont jamais fait ça. Elles étaient bien, ces petites filles. Et après, moi, j'en ai parlé avec André à la fin du culte. J'ai dit, mais Joannie, elle était à la garderie. Et puis, il me dit, non, elle était là pendant tout le long, pendant le culte. Je dis, oh, aïe, 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 mais elles étaient toutes seules, comment ça s'est passé? Et puis, j'envoie un message à Joannie. J'ai dit, mais dis, dimanche, t'es sûre que t'étais pas à la garderie? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, c'est Véro. C'est notre Véro national qui est là. Elle me dit, c'est Véro. Elle y est allée spontanément. Véro, elle a des horaires irréguliers. Elle ne peut pas suivre le culte tous les dimanches parce qu'elle travaille des fois le dimanche. Elle a identifié le besoin de cette famille, le besoin de l'église et le besoin de ses 2 petites filles. Elle s'est levée, elle est allée à la garderie. Elle s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée parce qu'elle a sacrifié du temps. Elle avait des compétences qu'elle a mises à disposition, mais peut-être qu'elle aurait eu envie de suivre le culte avec les adultes. Et elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Mais en fait, elle a servi ses enfants, elle a servi les parents de ses enfants, et elle a servi l'Église, parce qu'on n'a pas été dérangé par des petites qui auraient trouvé le temps long. C'est un exemple basique. Mais ça, c'est du service. Et si on ne comprend pas cette notion-là, qui est basique dans l'Église, eh bien, ça va être difficile d'aller plus loin. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'Église ne sert pas. Je crois qu'on manque de serviteurs parce qu'il y a déjà à peu près tout le monde qui est à son poste. Tout le monde est sur le pont. Et ça, c'est un sujet de reconnaissance. Mais c'est ces principes que nous devons comprendre. Parce que ça peut nous donner de la force de dire, ben, qu'est-ce que j'ai? Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Mais qu'est-ce que j'ai? Et comment est-ce que je peux le donner? Quand je donne ma vie de cette manière-là, je sers, et je sacrifie quelque chose, mais je le retrouve. Parce que vous ressemblez de plus en plus au Seigneur, parce que c'est ce qu'il a fait. Il n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Sûrement que des fois, il aurait voulu dormir, mais il allait prier. Sûrement que des fois, il avait envie de se retirer tout seul quelque part pour souffler un peu. Puis les foules arrivaient, enseigne-nous. Et il fallait se relever et recommencer. Il n'a jamais râlé. Il l'a fait. Alors comment est-ce qu'on fait pour aimer? On se sacrifie, on sert, on donne. Et parfois, c'est notre ego qu'il faut sacrifier. Quand tu as un frère ou une sœur qui te fait des reproches, qui ne sont pas forcément justifiés, comment tu fais? Comment tu réagis? Eh bien, tu peux sacrifier ton ego en disant, ok, il y a peut-être quelque chose de juste dans ce qu'il me dit. Puis il y a peut-être des choses fausses. Ben, ce qui est faux, moi, je remets tout ça au Seigneur. Seigneur, toi, tu sais, je refuse de faire justice. Je ne me justifie pas. Je renonce à ma propre justice. Mais je remets cette personne à ton jugement. Mais je te demande aussi de la bénir, de lui faire grâce. Si elle a tort, ouvre-lui ses yeux spirituels, qu'elle puisse revenir pleinement à toi. Et moi, je te demande de guérir le tort que ça m'a fait, la douleur que ça représente dans mon cœur. J'ai été blessée, je te remets cette blessure. Mais je me libère et je pardonne à ce frère ou à cette sœur. Et je te la remets, je la remets à ta justice, à toi. C'est dans les Proverbes qu'il est dit que la gloire d'un homme, c'est de laisser passer un affront sur nous sans y réagir. Le laisser passer, que ça nous glisse dessus comme sur les plumes, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Quand un affront vient vers toi, apprends à le gérer en te sacrifiant. Sacrifie ton ego. Dieu fait justice. Ne te justifie pas. Mais par contre, s'il y avait une parole de vérité dans tout ça, essaye de reconnaître. C'est vrai, je t'ai blessé, c'est vrai, j'ai fait faux. C'est vrai, je dois encore apprendre, c'est vrai, je suis encore pas arrivée là où j'aimerais arriver. Seigneur, viens-moi en aide. Tu peux même demander à ce frère ou à cette sœur, est-ce que tu veux bien prier pour moi, pour que ça aille mieux? On a eu notre temps d'intercession ce matin et je ne sais pas si Denis avait déjà ce passage ou pas, ou si c'est juste parce qu'il a entendu sur quelle thématique j'allais prêcher sans en avoir les détails, mais il nous a lu ce passage dans Colossiens 3. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen.